À l'écoute de RFI, 21h, ici à Paris, 19h en temps universel. Allez, dans 10 minutes, c'est mardi politique ce soir. L'invité sera Alexandre Wizil, sénateur socialiste de l'Oise. Mais pour l'heure, c'est le journal d'Adrien Delgrange. Bonsoir Adrien.
Bonsoir Romain, bonsoir à toutes et à tous. Et au sommaire de cette édition internationale, des images déchirantes et réactions du porte-parole du secrétaire général de l'ONU, où l'on voit des milliers de Palestiniens affamés se ruant sur un centre d'aide alimentaire, distribution de nourriture qui a tourné au fiasco. Elon Musk retourne exclusivement à son business. Le patron de SpaceX et de Tesla quitte son poste de conseiller du président américain. Dans ce journal, nous serons aussi en Corée du Sud à une semaine de l'élection présidentielle. En France, les députés ont voté aujourd'hui en faveur du droit à l'aide à mourir. Les partisans d'une telle loi saluent un vote historique. Les opposants y voient une transgression majeure. Un dernier mot de football, Lamine Yamal prolonge au FC Barcelone jusqu'en 2031. À Gaza, après presque 3 mois de blocus complet par Israël, les premiers cartons d'aide alimentaire ont été distribués à la population par la Gazan Humanitarian Foundation, la très controversée organisation humanitaire créée de toutes pièces avec le soutien des États-Unis, affirme avoir distribué près de 8000 cartons de nourriture aujourd'hui à Gaza. La distribution a dégénéré, débordée par la foule. Les hommes chargés des opérations ont dû stopper net le don de nourriture. Des tirs auraient retenti pour disperser la foule sans qu'on en sache précisément davantage. Alors rien d'étonnant en tout cas pour les humanitaires sur place qui ont cessé de critiquer l'irruption de cette organisation accusée de travailler pour Israël. Clémence Laguarda est la coordinatrice humanitaire de l'ONG Oxfam.
Nous, ce qu'on sait, c'est quelques infos qu'on vient d'avoir par nos réseaux sur place, c'est que effectivement, il y a un site de distribution à Rafah, Tal al-Sultan, a été submergé par la foule, que les staffs américains qui étaient sur place de la compagnie privée ont quitté le site, et que de façon l'armée israélienne, après, via des hélicoptères, a tiré sur la foule, il semblerait, pour la disperser, et qu'on a eu quelques témoignages aussi qui disent que même avant que ça dégénère, il y avait un certain niveau de désorganisation sur le site, comme on avait prévenu aussi que c'est au final une compagnie privée qui n'a pas d'expérience dans l'humanitaire et quand une distribution, surtout dans des situations humanitaires comme celle de Gaza à l'heure actuelle, ça ne s'improvise pas et que là, c'était complètement attendu que ça dégénère, malheureusement.
Propos recueillis par Abla Jounaïdi. Donald Trump pourrait annoncer dans les prochains jours de nouvelles sanctions contre la Russie. Information de plusieurs médias américains, le président américain a une nouvelle fois laissé éclater sa frustration envers Vladimir Poutine, estimant qu'il jouait avec le feu dans le conflit avec l'Ukraine. Aux États-Unis, c'est une commission mise en place dès l'arrivée du président Donald Trump au pouvoir, avec pour objectif de réduire les dépenses publiques. Elon Musk quitte le département pour l'efficacité gouvernementale, appelé le DOGE. Le patron de Tesla, l'homme le plus riche du monde, a déjà reconnu ne pas avoir atteint les objectifs de réduction des coûts. Mais quel bilan du DOGE peut-on tirer? Est-ce possible d'évaluer son travail? Nous allons en parler avec vous, Harim Lippold. Commençons tout d'abord, Harim, par les chiffres. Combien d'argent a été économisé au final?
Officiellement, on parle de 160 milliards de dollars d'économies, mais en réalité, le calcul reste flou. Des erreurs ont été relevées par la presse et plusieurs experts contestent ce chiffre. De toute façon, on est très loin de l'objectif affiché, 2000 milliards d'économies, soit 4 fois le budget annuel de la France. En fait, le DOGE a surtout réduit le coût humain en licenciant des milliers de fonctionnaires. Des coupes spectaculaires, comme la suppression de nombreux projets de développement, mais jugées très peu efficaces. On arrive même à une situation un peu absurde. La baisse du nombre d'agents du fisc pourrait faire chuter les recettes fiscales. Faute de personnel, certains dossiers ne seraient plus traités, ce qui pourrait favoriser l'évasion fiscale. Une chose est sûre, l'administration Trump a atteint un plafond politiquement acceptable. Pour l'instant, les coupes ne heurtent pas sa base électorale. Les gros budgets, comme la sécurité sociale, n'ont pas été touchés. Et au final, contrairement aux déclarations officielles, les dépenses fédérales ont même augmenté par rapport à l'année dernière.
Harim Lippold, RFI à Paris, 21h05.
RFI, les voix du monde.
En Corée du Sud, mercredi prochain, le 3 juin, sera exceptionnellement férié. Férié pour faciliter les Sud-Coréens à aller voter. Élection qui devra déterminer un successeur au président Yoon Suk-yeol. À 7 jours du scrutin présidentiel en Corée du Sud, une question est sur toutes les lèvres. Faut-il ou pas raccourcir le mandat présidentiel? C'est en tout cas ce que proposent de nombreux candidats. Correspondance à Séoul, Célio Fioretti.
Tourmentée depuis la crise politique, la Corée du Sud se questionne sur le rôle du président. Pour regagner la confiance des électeurs, le chef de l'opposition et le candidat du parti présidentiel proposent tous deux de changer le mandat présidentiel de 5 à 4 ans. Toutefois, ce mandat raccourci pourrait être renouvelé, ce qui est impossible actuellement. La constitution coréenne ne prévoit qu'un unique mandat par président. Ces projets de réforme portés par les deux partis sont plutôt bien reçus de la part des électeurs. Près de 60% des Sud-Coréens soutiennent cette réforme, comme en témoigne cette passante.
Oui, je pense que c'est une bonne chose qu'il puisse être réélu. Certaines politiques doivent être menées pendant presque 10 ans pour en voir les effets. Mais le mandat unique empêche cela, car chaque président veut défaire ce qu'a fait son prédécesseur. J'aimerais qu'on puisse donner la possibilité de réélire un président s'il a fait un bon travail.
Toutefois, peu importe le candidat qui remportera l'élection, ce projet de réforme ne se fera pas en un claquement de doigts. Réforme constitutionnelle oblige, il faudra l'accord des 2/3 de l'Assemblée pour modifier la Constitution qui n'a pas été touchée depuis 1987. C'est le Fioretti, Séoul, RFI.
En Iran, les chauffeurs de camions sont en grève. Un mouvement de protestation inhabituel par sa durée. 6 jours de grève, par son ampleur aussi, des camions à l'arrêt aux 4 coins du pays. Les conducteurs demandent de meilleures conditions de travail. L'actualité en France, ce sont les députés qui ont approuvé ce soir en première lecture la création d'un droit à l'aide à mourir. Première étape d'une réforme majeure de la présidence d'Emmanuel Macron sur un sujet qui divise la France depuis des décennies. Emmanuel Macron, en déplacement en Indonésie, a salué le vote comme une étape importante. Il insiste également sur le respect des sensibilités de chacun. Quant à son Premier ministre François Bayrou, historiquement réticent à l'aide à mourir, il a fait part aujourd'hui de ses interrogations sur le texte et il indique que s'il avait été député, il se serait abstenu. L'heure de partir à Roland-Garros pour parler de tennis avec le match du soir. Nous sommes en ligne avec Babacar Diarra. Bonsoir Babacar.
Bonsoir Adrien.
Pour nous parler de Gaël Monfils, le tricolore fait son entrée en lice dans le tournoi. Alors une entrée plutôt difficile et vous allez nous l'expliquer à plus d'un titre.
Avoir mon fils sur le court, c'est la garantie de rebondissement. Mais la cascade réalisée dès le 5e point du match était difficile à prédire. En allant chercher un potentiel break d'entrée, le Français a fait un faux pas avant de heurter les panneaux publicitaires de tout son corps. La tuile sur un court Philippe Châtrier qui n'avait pas eu le temps de se remplir et déjà s'inquiéter d'un éventuel abandon. Derrière, mon fils a pris le temps de reprendre ses esprits et de prendre aussi repossession de sa cheville droite, pendant que le Bolivien en face de lui, Hugo Delien, a aligné les jeux. Les médecins sont venus consulter le Français par deux fois pour savoir si c'était une bonne décision de continuer. Mon fils a décidé que oui, pour son plaisir personnel, mais aussi pour le public qui ne cesse de l'encourager parce qu'il ne vivra plus beaucoup de soirées comme ça. Alors, le score à l'heure actuelle, il est de 5-2 pour le Bolivien dans cette première manche. On peut dire que c'est compromis, mais vous l'aurez compris, rien n'est fini avec Gaël Monfils. La soirée pourrait s'étaler dans le temps si la Monf, comme on le surnomme, puise loin dans ses ressources.
Babacar Diarra, Roland Garros, un peu plus tôt dans la journée, qualification de l'Allemand Zverev, du Serbe Djokovic ou encore de l'Australien Deminor. Un dernier mot de football, Lamine Yamal sous les couleurs du FC Barcelone, 6 ans de plus, le jeune prodige de football espagnol, âgé de 17 ans, a prolongé ce soir son contrat avec le FC Barcelone jusqu'en 2031. Ainsi se referme ce journal international, où vous soyez sur la planète. Merci à tous de l'avoir écouté. Mardi politique est à suivre sur la Radio Mondiale.